Bonjour, bienvenue sur Radio B 90 FM, les bonnes ondes pour votre chronique du passé. Bonjour Rémi.
Bonjour Martine, bonjour à tous. Voici un siècle, des œuvres d'art étaient déménagées du centre-ville de Bourg vers Brou. Quel est ce mouvement ?
Bien, c'est l'installation du nouveau musée de l'Ain dans ses locaux de l'ancien monastère de Brou.
C'est l'aboutissement d'une longue attente.
À la belle époque, avant la Première Guerre mondiale, la ville a plusieurs musées. Ils seront désormais regroupés en un seul lieu, à proximité de la prestigieuse église de Brou, entourée d'arbres et d'oiseaux.
C'est le printemps, et c'est au printemps de 1922, voici 100 ans, que le musée de Brou a été ouvert, le 30 avril. Remontons davantage le temps. De quand date la conception de nos musées actuels ?
Et l'idée est née pendant la Révolution, au début des années 1790. Face aux destructions, il apparaît nécessaire de préserver des œuvres d'art, car elles sont représentatives de l'identité nationale. D'autres dispositions évoquent leur transfert dans des musées et leur conservation, je cite, « de tous les objets qui peuvent servir aux arts, aux sciences et à l'enseignement ». Un musée des monuments français est créé en 1795.
En outre ?
Beaucoup d'œuvres ont été entassées dans les annexes du Louvre. Bonaparte, alors premier consul, décide d'en répartir une partie dans les villes de province. Empereur, il en fera de nouvelles répartitions en 1803 et 1811. Ensuite, on connaît la chute de l'Empire et la succession des régimes.
Que se passe-t-il à Bourg-en-Bresse ?
Le projet d'un musée départemental est initié en 1816 par l'érudit local Thomas Ribou, qui a permis la sauvegarde de l'église de Brou. Il présente son projet à la Société d'émulation et d'agriculture le 14 février 1816.
Mais ce n'est pas un musée des beaux-arts.
Pas vraiment. Plutôt des salles d'études pour mieux connaître le passé de nos contrées. Il propose de regrouper et d'exposer les médailles antiques trouvées localement. Une manière de retracer l'histoire des hommes qui nous ont précédés sur notre sol. Thomas Ribou signale la découverte récente de médailles phocéennes. Nos ancêtres auraient ainsi commercé avec les fondateurs de la ville de Marseille. De même, il veut rendre hommage aux auteurs locaux en regroupant leurs ouvrages. Des auteurs qui s'appellent Jérôme Lalande, l'astronome, Philibert Commerson, l'explorateur, Xavier Bichat, le médecin, Samuel Guichenon, l'historien, Claude Favre de Vaugelas, le grammairien, ou Madame Marron Meillona, la femme de lettres, amie de Voltaire.
Des hommages avec quelques bustes ou portraits.
Il souhaite que soient exposés les bustes de François Ier, Henri IV et Louis XVIII. Un souhait surprenant pour un élu qui a été révolutionnaire, puis bonapartiste. Les deux premiers rois ont quand même ravagé nos pays de l'Ain pour les placer sous la couronne de France. Le troisième est le roi en exercice. Il vaut mieux le flatter ou, au moins, se placer sous son autorité. Il faudra aussi, je le cite, « réserver une place distinguée au portrait de Marguerite d'Autriche ». Là, Thomas Ribou est un précurseur, car le musée de Brou n'achètera un tel portrait qu'en 1975.
Un tel musée n'est pas créé. L'idée ne se concrétise pas dans l'immédiat.
Non, mais la Société d'émulation et d'agriculture continue son œuvre pour de meilleures connaissances et des progrès en agriculture en distribuant des prix chaque année.
Que fait le législateur ?
La première moitié du XIXe siècle est assez agitée. Les régimes politiques se suivent. On reparle musée en 1848 et 1852. Mais le Second Empire ne reprend pas les mesures engagées.
Et à Bourg-en-Bresse, le hasard impose une prise de décision.
Le 3 décembre 1853, le maire de Bourg lit le testament de Madame Veuve Antoine Lorrain, qui résidait dans le château familial à Illia. Je cite. « Je donne à la ville de Bourg, sous la surveillance du Conseil général, ma galerie de tableaux et ceux qui sont dans la salle à manger, mes meubles gothiques et tous les meubles glace qui se trouvent dans le salon de tableaux, les objets d'art, statues, bronze du grand salon et statuettes de bronze. Outre ces objets, je donne à la ville de Bourg la somme de 10 000 francs pour l'aider à l'appropriation d'un local. Je donne le portrait de mon mari et celui de mon beau-père pour être placé dans la galerie des tableaux, afin de perpétuer le souvenir de ces deux bons citoyens qui furent si dévoués à leur pays. »
Et cette généreuse donation
permettra de former un musée qui sera l'un de ses plus beaux ornements de la cité et dans laquelle il favorisera l'étude et propagera le goût des arts. Le conseil accepte le legs, remercie vivement la donatrice et décide, je cite encore, qu'il sera formé un musée des objets d'art et que ce musée portera le nom de Musée Lorrain.
Le sujet n'est plus abordé en conseil municipal, mais la ville s'est activée.
À défaut du registre municipal, consultons le courrier de l'Ain qui nous apprend que l'inauguration du musée Lorrain a eu lieu le dimanche 10 décembre 1854 par le maire Charles Bernard, en présence du préfet, des élus locaux et départementaux. Le discours nous apprend que les tableaux proviennent du château d'Illia, propriété de la famille Lorrain près de Toissé. Le musée est installé dans le grand salon de l'hôtel de ville. Le conservateur des musées de Lyon, M. Thierrat, et le professeur de dessin du lycée, M. Pinjon, ont apporté leur concours pour l'organisation et la restauration des tableaux.
On y voit des tableaux des écoles françaises, flamandes, allemandes, espagnoles ou italiennes. C'est une vraie collection d'art avec, en ajout, une touche locale.
La ville a ajouté les tableaux qu'elle possédait déjà et qu'elle exposait en mairie. Notamment les petits savoyards d'Elisa Blondel, la jeune artiste locale. 10 ans plus tôt, sa mort, de la tuberculose à 31 ans, avait beaucoup ému la population et la ville avait acheté le tableau en 1847. D'autres artistes locaux, comme Anthony Viau, ont déjà offert des toiles.
Combien d'œuvres exposées ?
114, dont 107 de la donation de Madame Veuve Lorrain. Le musée est ouvert les dimanches, jeudis et jours de fête de 11 à 16 heures, en décembre et janvier, puis ensuite les dimanches et jours de fête.
La ville expose aussi le tableau qu'elle a reçu de l'État en 1843.
C'est la représentation de la visite de François Ier à Brou par le peintre dijonnais Auguste Mathieu. Un tableau d'histoire qui représente un épisode local attribué à la ville, alors sans musée.
Les donations vont se poursuivre.
Comme par exemple la vache au pâturage, par Jean-François Millet, déposée par l'État. D'autres œuvres viennent de particuliers, comme un dragon ailé, un bronze ramené de Chine par un militaire. Trop à l'étroit, le musée déménage en 1867 au deuxième étage de l'ancien hôtel de préfecture. Bâtiment adjacent à la mairie.
Et depuis 1899, la ville a un second musée installé au-dessus de la Halle aux Grains.
Voilà ce qu'écrit le maire Georges Loiseau en 1905. Je le cite. Il existe un musée ethnographique dû à la générosité de M. Charles Guillon, ethnologue et archéologue distingué. Ce musée contient une remarquable collection de costumes bressans, d'objets et d'ustensiles domestiques datant des XVIIe et XVIIIe siècles. Dans une pièce attenante a été déposée une importante collection préhistorique due à la générosité de l'abbé Tournier de Saint-Rambert-en-Bugey. Les deux musées, placés sous la direction de Léon Loiseau, artiste peintre, rassemblent 1800 articles.
Tout cela se trouve un peu à l'étroit et la ville recherche des locaux mieux adaptés.
Une opportunité se présente après la loi sur la séparation des églises et de l'État du 9 décembre 1905. Le séminaire du diocèse quitte les locaux du monastère de Broux en décembre 1906. Et une loi d'avril 1908 prévoit que les anciens séminaires pourront être cédés aux collectivités.
Et la ville de Bourg s'active.
Le secrétaire d'État aux Beaux-Arts, M. Dujardin-Baumès, vient à Bourg pour inaugurer le Square Lalande le 18 avril 1909. Il est à peine descendu du train que les élus l'emmènent visiter l'ancien séminaire pour faire évoluer le dossier.
Il évolue ?
Pas tout à fait. Même si les locaux sont transférés à l'administration des Beaux-Arts le 7 février 1911. Ce serait une nouvelle étape, mais le Parlement prolonge la durée du service militaire. L'armée a besoin de locaux et elle s'installe à Broux à l'automne 1913. La guerre arrive et se prolonge. L'ancien séminaire est transformé en hôpital militaire de mai 1917 à mai 1919.
Finalement, Broux devient un musée le 30 avril 1922.
Date de son inauguration. Un banquet rassemble 350 convives et 8 discours. La visite a été conduite par le conservateur Alphonse Germain à travers des salles de peinture, de sculpture, de meubles, d'archéologie et de souvenirs bressons. Deux salles sont réservées au musée Gustave Lambert, un explorateur originaire de Griège, mort pendant la guerre franco-prussienne en janvier 1871.
La ville a désormais un véritable musée.
Il va évoluer, bien évoluer, au fil du temps, et c'est toujours un plaisir de le parcourir.
Au cours de notre enquête, nous avons relevé quelques anecdotes.
Des tableaux ont été attribués à des églises sous le Second Empire. Les artistes sont souvent des femmes, comme à Bagé-Châtel, à Ballan, Griège, à Saint-Paul-de-Varax ou encore à Sermonier. Le prêtre de Foissiat s'inquiète du retard auprès du préfet. Je cite son post-scriptum de 1863. En Bresse, quand nous voulons régaler un ami, nous lui envoyons une bonne volaille. Si le préfet veut sa volaille, il faut qu'il intervienne.
Pont-de-Vaux réclame des chintreuils.
Pont-de-Vaux est en effet le lieu de naissance, en 1814, d'Antoine Chintreuil, le peintre. La ville obtient d'abord que lui soient confiées 6 études de cet artiste, en 1924, en provenance des réserves du Louvre. Un an plus tard, la mairie demande des tableaux, mais la réponse du ministère ne figure pas dans les archives départementales.
Nous terminons en remerciant le personnel du musée de Broux, passé et actuel, dont les écrits nous ont permis de rédiger cette chronique.
Ouais, merci aussi à Jimmy et à la technique. Au revoir, auditeurs des bonnes ondes. Au revoir avec « Je te donne » de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones.
I can give you a voice bred with rhythm and soul, the heart of a Welsh boy.